Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Merci d'être avec nous sur la radio Inzamba Gatseka Kawe. C'est le moment du journal en français, donc voici d'abord les principaux titres. Des pluies torrentielles qui se sont abattues hier sur la colline de Kiangé, en commune Kibago de la province de Makamba, ont fait 4 morts et 15 blessés. Plusieurs maisons et champs de culture ont aussi été endommagés. Et puis le président du parti CNL sort de son silence et accuse le ministre de l'Intérieur de torpiller les activités de son parti. Vous l'entendrez dans ce journal. Et enfin, 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Au Burundi, le constat n'est pas enviable. Plus de 2 millions d'habitants sont aujourd'hui mal nourris, selon un rapport de l'OCHA, une agence des Nations Unies pour l'alimentation. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Et c'était bref pour commencer ce journal. Comparution pour la deuxième fois ce lundi de l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bougnoni devant la Cour suprême en itinérance à la prison centrale de Gitega. Au cours de cette audience, l'avocat de la défense a réitéré sa demande de mise en liberté provisoire, évoquant une maladie chronique fatale et de mauvaises conditions de détention. Mais le ministère public a maintenu sa décision de détention préventive. Au cours de cette audience, un nouveau chef d'accusation a été ajouté par le ministère public. C'est celui de la tentative d'assassinat du chef de l'État. Il était jusque-là poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de saper le bon fonctionnement de l'économie nationale, d'enrichissement illicite, de détention illégale d'armes et d'outrage au chef de l'État. 4 enfants tués, 15 personnes blessées, plus de 50 maisons détruites et plusieurs champs de culture dévastés. Tel est le bilan des pluies torrentielles mêlées de vents violents se sont abattus hier sur la colline de Kiangé, en commune Kibago de la province de Makamba. Les victimes de ces intempéries demandent une aide d'urgence. On fait le point avec Joséphine Jones-Gonzimane.
Nos sources dans la commune de Kibago nous disent que les 4 enfants tués ont succombé à leurs blessures après l'écroulement de l'église Pentecôte qui a été détruite à cause de cette pluie sur la colline Kiangé. C'est hier, lors de la prière matinale à cette église. L'écroulement de cette église a fait aussi 15 personnes blessées, selon les mêmes sources. Ces pluies diluviennes ont provoqué d'autres dégâts matériels. On cite entre autres 45 maisons qui ont perdu leur toiture, 8 salles de classe, 3 églises, une salle d'hospitalisation du centre de santé Kiangé, un homme du lycée communal Kiangé ont été aussi endommagés par ces pluies. On signale également plus de 20 hectares de champs de bananes et de manioc dévastés. Avec tous ces dégâts, la commune de Kibago enregistre 225 personnes touchées, sont pour le moment des sans-abri. Les administratifs demandent à toutes les âmes charitables de secourir ces personnes qui éprouvent des sérieux problèmes suite à ces intempéries. Ils en appellent aussi à la réhabilitation des infrastructures endommagées.
En politique, on parlait d'hypocrisie et de mensonges. Eh bien, c'est Agathon Onguassa, président du parti CNL, qui qualifie le ministre de l'Intérieur ainsi. Le président du parti CNL sort de son silence pour fustiger l'attitude du ministre de l'Intérieur à l'endroit de ce parti de l'opposition. Agathon Onguassa exige la levée des sanctions prises contre le CNL et que le ministre de l'Intérieur cesse de s'immiscer dans les affaires internes de son parti. C'est au moment où le CNL a sorti aujourd'hui un communiqué pour condamner l'ingérence du ministre de l'Intérieur dans la gestion de son parti. Écoutez Agathon Onguassa.
Le parti CNL, c'est un parti agréé et c'est un parti qui a ses organes. Si le parti CNL fonctionne normalement, toutes les questions se résolvent dans un cadre prévu par les lois internes au parti. Mais le ministre est plutôt rusé et hypocrite. Il sait qu'il a bloqué toutes les activités du parti CNL. Comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes lorsqu'on ne peut pas se rencontrer, lorsqu'on ne peut pas se réunir, ne fût-ce que statutairement? C'est ça le dilemme, c'est ça le paradoxe. qu'il essaie d'entretenir et essaie de se tirer d'affaire en prononçant des paroles qui peuvent tromper l'un ou l'autre. Tout ce que nous demandons à l'autorité administrative, qu'elle soit ministérielle ou présidentielle, c'est de laisser le parti Sénère libre. Le parti Sénère n'a enfreint aucune loi de la République du Burundi. Donc, les sanctions injustes, arbitraires et insensées de la part des ministres de l'Intérieur doivent être levées. C'est comme ça que l'on pourra, alors, être en activité, que l'on pourra résoudre les différentes questions qui peuvent se poser aujourd'hui ou plus tard.
Et puis le 21 octobre, le Burundi va commémorer le 30e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Cet assassinat et celui de certains de ses proches collaborateurs en octobre 1993 a été une trahison non seulement de l'armée de l'époque, mais aussi de ses proches collaborateurs. C'est une révélation de Gratien Lukindikiza, ancien garde du corps de feu Melchior Ndadaye. Il a écrit dans son livre intitulé « Trahison au Burundi ». Pour Gratien Lukindikiza, Ndadaye n'a pas été tué parce qu'il était Hutu, car parmi les commanditaires et les exécutants de son assassinat, il y avait des Hutus. Suivez.
Les gens, ils doivent comprendre que Ndadaye n'a pas été tué parce qu'il est Hutu. Il n'a pas été tué, assassiné par des Tutsis seulement. Non, il a été assassiné par des gens, des traîtres, moi je dirais des traîtres, qu'ils soient, ils étaient, certains étaient Hutus, d'autres étaient Tutsis. Donc, mais il n'y a pas une étiquette ethnique des gens qui ont assassiné le président Ndadaye. C'est-à-dire que dans le complot, il y a eu des gens proches de lui, y compris dans son camp, y compris dans son cabinet. Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent que la haine ethnique qui peut provenir de 93 est sans fondement, elle est erronée. Donc, les gens ne devraient plus se haïr ethniquement ou même au niveau région autre chose parce que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, l'assassinat de Ndadaye et ses collaborateurs. C'est juste les traîtres qui ont fait du tort au peuple burundais.
Gratien Lukindikiza sera notre invité vers la fin de ce journal.
Inzamba.
Je vous le disais en titre, le 16 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de l'alimentation. Au Burundi, la journée arrive au moment où plus de 2 millions de Burundais souffrent de malnutrition sévère et aiguë. La couche la plus menacée est celle des enfants de moins de 5 ans. Les femmes enceintes et celles qui allaitent, comme le stipule le rapport de l'OCHA, l'Office pour la coordination des aides humanitaires. Les détails avec Bonfils Nyongere.
Selon le rapport de l'OCHA, l'Office de la coordination des aides humanitaires publié en juillet de cette année, 20% de la population burundaise se trouve en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans un contexte marqué par une forte vulnérabilité dans la pauvreté, les dérèglements climatiques. Le taux de malnutrition chronique des moins de 5 ans est estimé à plus de 50%. Le même rapport de cette agence onusienne précise que 30% des ménages burundais ont un score de consommation alimentaire pauvre. La situation est tellement alarmante selon toujours OCHA que 18% des Burundais n'arrivent pas à avoir un seul repas par jour. Très peu de ménages burundais n'arrivent pas à avoir des repas diversifiés et variés. Le cas le plus parlant est celui des enfants âgés de 6 à 23 mois où seuls 26% bénéficient d'une diversité alimentaire minimale, tandis que 13% seulement ont accès à une alimentation minimale plus ou moins acceptable. Le secteur nutritionnel estime que cette année, plus de 250 000 personnes ont besoin d'une assistance nutritionnelle, dont environ 200 000 enfants en moins de 5 ans, ainsi que 34 000 femmes enceintes et allaitantes. Les partenaires du secteur nutrition avaient par conséquent ciblé un total de plus ou moins 60 000 personnes pour les interventions de malnutrition aiguë. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë a doublé, passant d'1 200 000 à 2 300 000 personnes. Pour répondre à cette situation de la dégradation de la situation alimentaire, le présent rapport précise qu'il est prévu de soutenir pour cette année plus d'un million de personnes impactées avec un budget de plus de 230 millions de dollars américains.
Et page sportive de cette édition, première défaite de Vitalo depuis le début du championnat national de football. Les Mauves et Blancs ont été tenus en échec au stade de Bouganda par Burundi Sport Dynamique. Vitalo est désormais talonné à la première place par Flambeau du centre avec un seul point de différence. Au basketball, c'est sans surprise que Dynamo et Ournani se sont qualifiés vendredi à la finale de la Coupe des Héros. Les résultats et le classement des matchs de ce week-end avec Alexandre Ningeko.
Le championnat national de football, Primus League, était ce week-end à sa 9e journée. La surprise a été justement la défaite de Vitalo face à Burundi Sport Dynamique. Des mauvais blancs de Palis Sahabo se sont en effet inclinés au stade de Buganda devant Burundi Sport Dynamique en 1-0. Dans d'autres matchs, toujours au stade Runani de Buganda, Aigle Noir a battu Tel Aviv par 3-1. Au même stade, Lukinzo de la Police Nationale a piégé Message Ngozi par 2-0. Au stade Ingoma de Gitega, Flambeau du Centre à domicile a battu Bumamuru par 3-0. Au stade Urunani de Buganda, Interstar s'est imposé sur Tigre Noir par 1-0. Même score entre Musongati à la maison et à Masipili, mais en faveur de Musongati. Au stade Gatoire de Kayanza, Kayanza United a battu Magara Young Boys par un score fleuve de 4-1. Arutana, Moso Shuga à domicile a fait un match nul et vierge contre Olympic Star. À l'issue de la 9e journée du championnat national de football, Vitalo est toujours leader avec 21 points, mais talonné par Flambeau du Centre avec 20 points. La 3e place revient à Message Ngozi qui totalise 17 points. Magana Young Boys garde toujours sa dernière place avec 0 points et 18 buts encaissés. Au basketball, qualification ce vendredi sans surprise de Dynamo et Urunani à la finale de la Coupe des Héros. Louis Guagasore de l'Indépendance et Melchior Ndadaye de la Démocratie. Dynamo a battu Taïgas par 86-59 points et Urunani est venu à bout de Remesha par 70-63. Si rien ne change, la finale se joue au département des sports le 29 octobre courant. Et pour être complet sur ce chapitre du ballon orange, le club Dynamo, champion du Burundi édition 2023, prend l'avion ce mardi à destination de Dar es Salaam, la capitale tanzanienne qui abrite les matchs du Road to Bor, une compétition qui aura lieu du 19 au 21 octobre courant.
Place à l'invité du journal.
Et chose promise, chose due, place maintenant à l'invité du journal, Graciano Kindikiza. Il répond aux questions de Jean-Marie Ndabashinze.
Capitaine Graciano Kindikiza, bonjour.
Ah bonjour.
Vous venez de sortir de votre silence après 30 ans d'assassinat du premier président démocratiquement élu, dont vous étiez son officier d'ordonnance. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire sur cet événement tragique après autant d'années?
J'ai décidé d'écrire ce livre maintenant, où je l'avais déjà écrit, il était en cours. Aujourd'hui, c'est parce que ce qui s'est passé en 93 rentre dans l'histoire. Ce n'est plus de l'actualité. Je n'ai pas voulu écrire un livre sur l'actualité, sur ce qui s'est passé récemment. J'ai voulu écrire un livre qui rentre dans l'histoire. On peut étudier l'histoire du Burundi. Ce qui s'est passé en 93, je pense même au niveau des écoles, les enfants, les élèves devraient étudier ce qui s'est passé en 93, ça rentre dans l'histoire. Donc, c'est une contribution de l'histoire pour l'histoire burundaise. Ce n'est pas une contribution pour alimenter l'actualité.
Et le titre de votre livre, c'est Trahison au Burundi. Pourquoi vous avez choisi ce titre?
Alors, j'ai choisi ce titre parce que c'est un titre que j'ai choisi vers la fin du livre, quand j'ai terminé presque le livre. Alors, c'est parce que il y a eu beaucoup de trahisons au Burundi. Ils ont trahi le prince Louis Rwagasore, ils ont trahi Ngendandoumé, ils ont trahi surtout Ndadaye. Surtout Ndadaye, il a été trahi par les siens, les proches, les gens en qui il avait confiance, sont ces gens-là qui l'ont trahi. Je me suis dit qu'il y a eu beaucoup de trahisons au Burundi, et ces trahisons, ils ont trahi des chefs, quelques chefs politiques, mais ils ont trahi aussi le peuple burundais, compte tenu de ce qui s'est passé, les massacres et autres, les assassinats. C'est de la trahison pure, et plusieurs trahisons, parce que ça s'est passé plusieurs fois, et il y a beaucoup de gens qui ont trahi.
Graciano Kindikiza, à la page 152 de votre livre, vous dites que votre stratégie de protéger le président Ndadaye n'était pas bien vue par votre hiérarchie, à commencer par le capitaine Mouchouabouri, qui était votre chef direct, le major Isaïe Nibizi, qui était commandant du camp qui assurait la garde du président de la République, le lieutenant-colonel Jean Bikomagu, qui était chef d'état-major, le ministre Charles Nakije, qui était ministre de la Défense nationale. Quelle force avez-vous pour contourner tous ces hauts gradés pour bien travailler?
Alors, je dois dire que j'avais une certaine expérience, parce que le 2, dans la nuit du 2 au 3 juillet 93, Dada, il n'était pas encore président du Burundi, il était président élu, mais non encore investi. Le président du pays, c'était le major Pierre Buyoya. En ce moment-là, ils m'ont attaqué au palais, et j'ai eu des instructions. J'ai eu un ordre venant d'en haut, je dis bien venant d'en haut, qui me disait que je devais laisser les gens entrer pour tuer le président Dadaye. L'ordre auquel j'ai refusé et j'ai compris en fait ce qui se passait. Alors, pour vous donner une certaine idée, aujourd'hui, le général Prime Niyongabo ne peut pas donner un ordre à un officier de sécurité du président Ndayishimiye de faire telle ou telle autre mission. Celui qui fait la sécurité, il est indépendant par rapport au chef d'état-major en général. Sinon, ça serait facile pour faire un coup d'état. Et moi, j'ai fait en sorte que je protège le président. Je me disais qu'en protégeant le président, je protège le peuple parce que je savais bien ce qui pouvait arriver. Et j'avais déjà compris, j'avais déjà compris qu'il y aurait en tout cas la trahison derrière. Et moi, j'étais pas dans ce cadre de trahison. Autant y aller, même au risque de ma vie, j'étais déjà exposé, il n'y avait aucun problème, mais j'étais décidé que je devais protéger Dadaye, quitte à ce que je meure, c'était moi, ça faisait partie de la mission quand on est à l'armée. On peut mourir, mais au moins en disant, je mourrai en défendant un président élu démocratiquement.
Justement, Gracier, le jour fatidique de l'assassinat du président Dadaye, vous n'étiez pas au Burundi. Pensez-vous que si vous étiez au pays, cet événement malheureux n'aurait pas eu lieu?
On ne peut pas savoir exactement, mais je vous dis une chose. Dans l'armée, les militaires, la troupe, elle est commune. Vous entendrez partout les grandes armées qui ont vaincu ou qui ont mené des batailles, les Romains, les autres. Ce sont des gens qui ont bien commandé leurs troupes. Si la troupe n'est pas commandée, elle ne se bat pas. Ce qui s'est passé, c'est que les militaires de la sécurité n'ont pas été commandés. Ils ont été délaissés. Ils ont compris que les chefs ne voulaient pas les commander. Je le dis dans le livre, le capitaine Mouchouabou, il a escaladé un mur, il a laissé les militaires à l'intérieur. Le major Nibidi, il n'a pas fait grand-chose pour protéger le président. Qu'est-ce que vous voulez que les militaires, les petits militaires s'improvisent pour combattre? Mais moi, si j'étais au pays, j'aurais commandé la troupe, commandé mes militaires, donné des ordres, je sais bien que les militaires aurait exécuté les ordres, et je sais bien que les militaires putschistes, les gens qui tentent de faire des putsch, ne veulent pas mourir. Ils veulent faire un défilé pour faire un coup d'État. Ce qui n'était pas dans le projet, il devait y avoir la mort. Donc, dans ce cas, je pense que les militaires qui étaient en face ne pouvaient pas s'engager en disant on va mourir juste pour tuer Dadaye. Non, ça se fait pas comme ça. Dans l'armée, ça se faisait pas comme ça. Un coup d'État était simple, on a vu, un coup d'État contre Bagaza, un coup d'État contre Michombero, c'était un défilé, mais jamais de mort. Si il y a un engagement de feu, eh bien, les gens qui tentent le coup d'État, en tout cas, ils réfléchissent.
Et la dernière question, Gracier Rukindikiza, en quoi votre livre peut aider la jeunesse burundaise d'aujourd'hui qui n'a pas connu cet événement tragique?
Alors, la jeunesse burundaise a besoin de savoir. Aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que nous ne connaissons pas réellement ce qui s'est passé en 72. Il y a des gens qui déclarent, qui font des guerres, qui des tueries, en disant, voilà, en 72, vous avez fait ça et ça et ça. On n'a pas sorti une version patriotique, une version nationale qui n'est pas ethnisée. Et de ce fait, nous en pâtissons. Moi, je me dis, comme je sais ce qui s'est passé en 93, autant que je sorte la vérité, que la jeunesse actuelle sache réellement qu'est-ce qui s'est passé, parce que les gens, ils doivent comprendre que Dadaye n'a pas été tué parce qu'il est Hutu. Il n'a pas été tué, assassiné par des Tutsis seulement. Non, il a été assassiné par des gens, des traîtres, moi je dirais des traîtres, qu'ils soient, ils étaient, certains étaient Hutu, d'autres étaient Tutsis. Donc, mais il n'y a pas une étiquette ethnique des gens qui ont assassiné le président Dadaye. C'est-à-dire, dans le complot, il y a eu des gens proches de lui, y compris dans son camp, y compris dans son cabinet. Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent que la haine ethnique qui peut provenir de 93 est sans fondement, elle est erronée. Donc, les gens ne devraient plus se haïr ethniquement ou même au niveau région, autre chose, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé l'assassinat de Dada et ses collaborateurs. C'est juste les traîtres qui ont fait du tort au peuple burundais.
Merci, Graciela Kindikiza.
Merci, merci.
Et voilà, c'est par cet entretien de Gracien Rukindikiza et notre confrère Jean-Marie Dabachinze que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.